session de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 17 mai 1996, quatrième conférence.
Il y a beaucoup de questions. Je vais peut-être pas à répondre à tout si on veut un petit peu avancer, mais je vais quand même prendre quelques-unes. Donc vous, déjà cette question qui est plus d'ordre historique, mais qui je crois est importante. Pourriez-vous revenir un instant sur l'absence d'amitié chez Platon ? De fait, je crois que c'est un problème très important dans l'histoire de la philosophie grecque. Et Platon emploie le terme uniquement de « eros ». Tandis qu'Aristote emploie le terme de philia. Oui, c'est très important de bien distinguer. Alors, neutralisez pas surtout Eros par le terme érotique tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Eros pour Platon, c'est, selon le terme qu'il emploie, c'est un daimon. C'est-à-dire, vous voyez, si je transcris, ça veut dire un démon. Alors, surtout pas. Le daimon de Socrate, voyez. C'est-à-dire cet esprit qui habite Socrate, qui fait que Socrate a un état particulier. Le daimon, oui, Platon, alors le grand livre de Platon sur l'amour, c'est Le Banquet. Où Platon montre que plutôt que de boire inutilement et être s'enivrer, il faut mieux faire des discours beaux et intelligents sur l'amour. Parce qu'ils sont déjà dans un état difficile du fait de l'ivresse de la veille. Donc ils disent, il vaut mieux. Et donc, vous voyez, Le Banquet se structure de cette manière. Plusieurs personnages font chacun un discours sur l'amour. Donc Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Aristophane, Agathon. Et puis ensuite, il y a un discours fait par Socrate qui raconte comment il a été initié à comprendre ce qu'est l'amour par une prêtresse, une prophétesse nommée Diotime, qui lui a révélé que l'amour, loin d'être un dieu, comme le disent les personnages qui ont parlé avant lui, n'est pas un dieu, mais plutôt un daimon, c'est-à-dire un être intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui vient, dit Platon, nous permettre de nous présenter à Dieu et de présenter des sacrifices, et à Dieu de s'intéresser à ce que nous demandons. Vous voyez ? Donc pour Platon, l'amour est comme un moyen qui permet d'être comme, entre guillemets, divinisé et immortalisé pour se tourner vers Dieu. C'est pour ça que Platon dira, et c'est très intéressant, je crois qu'il y a quelque chose à creuser ici, pour Platon, l'amour n'est qu'un moyen, il n'est pas une fin. Platon dit ceci, il dit « l'objet de l'amour, ce n'est pas le bien ». Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit ça. On a dit « l'amour spirituel porte sur le bien ». Le bien, c'est ce qui attire. L'amour, c'est donc la réponse à l'attraction d'un bien. Alors, si c'est un bien spirituel, c'est-à-dire une personne, c'est un amour spirituel. Si c'est un bien sensible, connu par une connaissance sensible, c'est un amour passionnel. L'amour passionnel, c'est l'amour d'un bien sensible, c'est-à-dire d'un bien connu par la sensation. J'aime la confiture parce que le goût me plaît ou me déplaît. Alors, à ce moment-là, j'en ai la haine. Mais il y a des gens qui aiment le salé, d'autres le sucré. C'est passionnel, pas plus. Et puis, l'amour spirituel, c'est l'amour d'une personne, c'est-à-dire d'un bien spirituel découvert par l'intelligence. Oui. Il faut saisir, c'est pour ça que Socrate dit qu'il a comme un don pour dépister les gens qui sont amoureux. Et découvrir la bonté d'une personne, ça exige beaucoup d'intelligence. Oui. C'est comme, là, on pourrait dire que oui, c'est la perspicacité de l'intelligence. Oui, ce n'est pas du tout l'esprit de géométrie, c'est l'esprit de finesse. Oui, la perspicacité de l'intelligence qui dévoile, qui découvre la bonté personnelle. Ça, c'est ce que dira Aristote. Pour Platon, l'objet de l'amour n'est pas le bien. Mais il dit, et c'est très intéressant, l'objet de l'amour, dit-il, c'est d'enfanter dans le beau. C'est très curieux. Il dit ainsi, chaque fois que l'être qui est possédé par Eros vient au voisinage d'un bel objet, il enfante dans le beau. Discours poétique, philosophie et pensée politique. Et c'est, je crois que c'est très intéressant parce que c'est au fond une conception très artistique de l'amour. Et Platon ne voit de l'amour qu'un moyen par lequel l'homme se connaturalise à une réalité belle. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que Platon confond le beau et le bien. Pour lui, beau et bien, c'est identique. Le bien, pour lui, c'est le beau. C'est-à-dire ce qui nous séduit, ce qui nous entraîne dans son sillage. Et ainsi, nous sommes capables d'enfanter de beaux discours. Et ça, c'est l'amour. Pour Platon, c'est l'amour noble. Parce que l'amour qui enfante un être de chair et de sang, pour lui, il est imparfait. C'est très curieux comme conception, mais c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est la vision de l'artiste, sur l'amour de l'artiste comme artiste, hein, comprenez. Je ne dis pas que les artistes se ramènent à ça. Mais si on prend la vision de l'artiste sur l'amour, c'est celle qu'a Platon. Et c'est par exemple ce que dit quelqu'un comme Bourdel, hein, ce sculpteur, disciple de Rodin. Et Bourdel dit ceci, il dit « Quand je me souviens, quand j'étais jeune, quand j'aimais, je ne cherchais pas à être dépendant de quelqu'un que j'aimais, je fuyais la dépendance. » L'artiste garde son indépendance. Mais je me servais de l'amour pour capter la beauté de ce que j'aimais, pour la faire mienne et l'exprimer dans ma statue. Et donc pour l'artiste, l'amour n'est qu'un moyen qu'il connaturalise à l'autre. Et alors, ce que montre Aristote, c'est justement ça. Le dépassement de la philia, c'est la découverte de la personne de l'autre. Oui, de la personne de l'autre aimée pour elle-même. Et la personne de l'autre telle qu'elle est. Et je n'aime pas l'autre pour le transformer. Ça, c'est la corruption de la morale, de l'amour par l'art. Si vous aimez l'autre pour le transformer, hein, si quelqu'un vous dit ça, écoute, je t'aime tellement que grâce à moi, tu vas changer. Fuyez à toute vitesse. Hein. Mais c'est pour ça que c'est jamais commun, par exemple, d'être l'épouse d'un artiste. Parce qu'il risque toujours de vous prendre pour une matière à transformer. Il vous confond avec sa statue. Alors c'est un peu gênant. Il voudrait vous éduquer. Il a une idée de ce que vous devriez être. Non, non. Quand j'aime, je respecte l'autre parce que je l'aime tel qu'il est. Et quand je découvre en lui un défaut, c'est pour l'aimer encore davantage comme personne. Et je dépasse ce conditionnement pour rejoindre l'autre tel qu'il est. Donc vous voyez, je crois que c'est ça, là, au fond, l'émergence de l'amour d'amitié en philosophie grecque, il n'y a que Aristote qui l'a compris. Et c'est le dépassement, vous voyez, de la philia par rapport à Eros, c'est le dépassement du bien personnel par rapport au beau. Donc vous voyez, de l'attraction de l'amour dans toute sa force par rapport à une certaine séduction artistique. Alors vous voyez, au fond, ça va très loin, parce que ça veut dire, vous voyez, quand vous dites... Est-ce qu'on peut revenir sur l'absence d'amitié chez Platon? Oui, justement, Platon vit d'un idéal. Et c'est pour ça qu'il dira que le beau de la personne n'est qu'un moyen pour s'élever jusqu'au beau en soi. Hein, il montre très bien ça ensuite. Je n'ai pas le temps de développer, oui, mais il montre bien comment, dans le banquet, pour lui, le beau n'est qu'un moyen par où on accède progressivement à l'idée de beau en soi. Et donc, je ne m'arrête pas à la personne. Je me sers du beau pour atteindre le beau en soi que j'atteins de manière intellectuelle. Donc Platon vit d'un idéal. Tandis que la philia, qui est de considérer la personne telle qu'elle est, c'est une personne, j'allais dire, en chair et en os, oui, telle qu'elle est existante. Il n'y a pas d'abstraction dans l'amour. Et pour Platon, il y a une abstraction. Et je dois quitter l'autre, je m'en abstrais pour regarder finalement le beau en soi. Tandis que l'homme qui est encore, pour Platon, rivé à une personne sensible et particulière, c'est imparfait pour lui. Et c'est très intéressant de voir ça, hein, que l'amour n'admet pas d'abstraction. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la conception qu'on a des rapports de l'âme et du corps en philosophie a une conséquence énorme du point de vue éthique. Si vous concevez l'âme et le corps comme un dualisme, alors, oui, Descartes reprend la position de Platon. Hein, pour Descartes, il y a un dualisme entre l'âme et le corps. C'est pour ça que tous les bons français, hein, c'est-à-dire cartésiens au carré, hein, ils ont une vision de l'amour qui est tout à fait fausse la plupart du temps. Et pour Descartes, l'amour n'est qu'une passion. Il n'y a pas d'amour spirituel. Pourquoi? Parce que l'intelligence se ramène à la raison. Donc vous voyez, c'est une espèce d'idéal, et tout ce qui est lié au sensible, c'est à mépriser. Et, alors c'est très important, oui, de bien voir ça, que hein, l'amour n'implique pas d'abstraction. J'aime une personne telle qu'elle est. Je n'aime pas un idéal de l'autre. Je l'aime telle qu'elle est, cette personne. Et donc ça implique ce réalisme qu'à la fois la personne a un absolu qui vient de son âme spirituelle et qu'elle implique ce conditionnement sensible qui la limite, comme ce conditionnement me limite moi. Et c'est dû au corps. Oui, alors c'est capital parce que ça montre comment à la fois l'amitié doit exiger une certaine vie commune. Et quand je dis vie commune, faites attention, hein, je ne dis pas forcément vivre l'un avec l'autre. Hein, je dis vie commune au sens de mettre quelque chose en commun. Il y a une vie commune qui consiste à travailler ensemble. C'est une vie commune, oui. L'amitié ne se réduit pas à la vie commune. Vous n'allez quand même pas dire que vous aimez l'autre uniquement quand vous travaillez 5 minutes avec lui, mais non. Le travail en commun est un moyen merveilleux pour comprendre l'unité qu'on connaît avec l'autre intérieur. Et donc, l'amitié a besoin de la vie commune pour s'exercer, mais elle ne se limite pas à la vie commune. Elle doit l'assumer, la porter, oui. Et c'est pareil pour une communauté religieuse. La charité fraternelle est un mystère, pas la vie commune. La vie commune, hein, c'est... La vie commune, c'est... Oui, c'est intéressant parce que vous voyez, ça va très très loin, parce que vous voyez, ça montre bien comment la finalité pour Aristote peut porter le conditionnement. Pour Platon, le conditionnement est à rejeter. Donc pourquoi ? Parce que le corps n'est qu'une entrave pour Platon. Hein ? Mon âme était une âme contemplative qui était dans le ciel des idées. Elle est tombée sur la terre à cause d'une faute d'orgueil. Donc le corps la limite. Il faut donc se libérer du corps pour retrouver la liberté de l'âme. Ça c'est Platon. Donc Platon a une haine du corps. Il ne voit pas comme un conditionnement. Pour Aristote, le corps est assumé dans la finalité. Et c'est ça le propre de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, c'est le bonheur d'une personne humaine qui implique l'âme liée au corps. Parce que je ne peux rencontrer l'autre fondamentalement dans la vie commune que grâce au corps. Vous voyez, si je vous fais un cours ce soir, c'est parce qu'il y a des corps. Je m'adresse à des gens qui ont une intelligence. Vous voyez, mais si on était des esprits purs, il n'y aurait pas de cours, on serait tous face à Dieu dans la contemplation. Ce serait pas mal. Ce n'est pas le cas. Oui, et tout dépend, vous voyez, comment on regarde le conditionnement. Soit on refuse le conditionnement, mais vous savez ce que dit le proverbe, hein, qui fait l'ange fait la bête. Hein. Soit on le considère et on l'assume. Bien, l'amour d'amitié, c'est justement ce qui fait cette unité. Parce que l'ami, il implique l'âme et le corps. Et donc il est à la fois fin et moyen. Et c'est pour ça que je dis que, dans la mesure où Platon considère que le corps n'est qu'une entrave, et que l'âme spirituelle est purement contemplative, pour lui, la contemplation n'est pas une fin à atteindre. On va y revenir pour l'éthique religieuse. Pour lui, la contemplation est un domaine perdu dont on a la nostalgie. Donc pour Platon, nous sommes naturellement et substantiellement contemplatifs. Et si nous ne le sommes plus, parce que nous l'avons oublié à cause du corps. Il faut donc supprimer le corps pour retrouver ce que nous avons perdu. Oui, pour Platon, c'est une méthode archéologique. Il faut retrouver le fondement. Supprimer la couche qui s'est accumulée, c'est le corps, pour retrouver l'état naturel de l'âme contemplative. Mais il a bien de la chance. Pour Aristote, la contemplation, c'est une fin ultime. On le reverra, hein, à propos de l'éthique religieuse. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui supprime mon conditionnement. Il doit être assumé. Et c'est le problème des vertus, notamment, oui, que le père Philippe vous a montré ce matin. Donc, vous voyez bien le problème. Hein. Je crois que je n'ai pas le temps de développer, parce que, mais il faut bien que vous voyez que la conception qu'on a des rapports de l'âme et du corps est une pièce maîtresse de la philosophie. Ça a des conséquences immédiates. D'où l'importance de bien comprendre cette distinction et de comprendre qu'il y a entre les deux une unité substantielle de vie et d'être. Et je suis un seul être, âme et corps. Il n'y a pas deux réalités collées par accident. Il y a un seul homme qui a en lui un principe de vie qui est l'âme, distincte mais non pas séparée du corps. Et c'est pour ça qu'Aristote fait cette petite remarque très belle. Aristote dit ceci, hein, il dit « Se poser la question de l'unité de l'âme et du corps est une question idiote ». Parce que ce ne sont pas deux réalités qui existent séparées, collées par accident. Il y a un seul homme dont j'ai l'expérience. Et en lui, je découvre une source de vie qui est l'âme. Mais l'âme est unie substantiellement au corps. Elle est la forme du corps, dit Aristote. L'acte du corps, la quidité du corps. Vous voyez, je ne peux comprendre le corps humain vivant que grâce à l'âme. Ah oui, ça va très loin, parce que par rapport à l'amour d'amitié, ça fait comprendre beaucoup de choses. Oui. L'amour n'implique pas d'abstraction. J'aime une personne concrète. Et dont j'ai l'expérience. Je n'aime pas un idéal. Oui. Platon, lui, il rêve d'un idéal. Le beau en soi serait tellement merveilleux. Parce que toutes les beautés particulières sont limitées. Oui. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui ? On découpe tel aspect parce que là, ah, cette personne est parfaite sous ce point de vue, ses yeux. Mais elle a des dents effrayantes. Alors, hein, on fait un collage, vous voyez, pour avoir une photo publicitaire parfaite. Oui. Oui, c'est platonicien, ça, on cherche le beau en soi. Et Platon, c'est ça, vous voyez, il dit au fond, et c'est désastreux, je rêve d'une telle idée du beau, et toutes les personnes que je vois, mais elles sont toutes limitées. Alors c'est consternant. Et c'est très étonnant, il refuse le réalisme de l'expérience. Il vit d'un idéal, et la réalité le déçoit toujours. Si vous aimez une personne, elle ne vous déçoit jamais, jamais, si vous l'avez vraiment choisi. Et donc je crois important de bien noter ça. Alors, la question suivante, hein, ça y répond par le fait même. Hein. En quoi diffère l'amour d'amitié, tel qu'on en parle en philosophie réaliste, le père Philippe, en quoi est-ce que ça diffère de l'état amoureux chez Platon ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, peut-on poser un acte prudent sans être finalisé ? Non. Et puisque la prudence, c'est une vertu de l'intelligence pratique. Or, l'intelligence pratique, c'est quoi ? C'est comprendre l'ordre de ma vie par rapport à ma finalité. Ce que je vous ai montré déjà tout à l'heure. Je suis prudent quand je pose un acte qui est qui m'aide à atteindre ma fin, ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je vis, ce en vue de quoi ma vie prend son sens, ce pourquoi je pose cet acte. Au contraire, l'acte. Oui, parce que c'est vrai que dans le français courant d'aujourd'hui, prudent, vous voyez, c'est l'homme qui ne s'engage pas. Hein. On dit, ah oui, l'homme prudent, oui, attendons, attendons. Ce n'est pas la prudence, ça. C'est un aspect de la prudence. La prudence peut exiger qu'on diffère l'engagement, mais ce n'est pas la prudence tout entière. La prudence, c'est l'intelligence pratique de celui qui connaît sa finalité, ce en vue de quoi il vit, et qui cherche les moyens pour parvenir à cette fin. Donc ça exige d'abord qu'on découvre la fin réelle pour nous. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dira que la prudence est donc une sagesse pratique. C'est-à-dire, elle est ce qui permet à l'homme de mener sa vie d'une manière pleinement humaine. Je vais revenir à propos de l'éthique religieuse, qu'on va voir justement, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, que pour dépasser une éthique fondamentalement humaine de l'amour d'amitié, pour trouver une éthique religieuse, la prudence est une pièce très importante. Parce que n'ayant pas encore découvert par moi-même l'existence de Dieu, je me sers cependant des traditions religieuses d'une manière prudentielle. Il y a des hommes qui disent que Dieu existe. Ce serait souverainement idiot de ne pas en tenir compte. Oui, ça fait passer, c'est une imprudence. La prudence implique qu'on s'informe, et qu'on cherche à connaître. Et donc, dire a priori Dieu n'existe pas, c'est la plus grande des bêtises, c'est le plus gros des a priori. N'ayant pas encore découvert, si je ne suis pas croyant, je dois au moins me dire, mais tiens, il y a quand même des hommes intelligents qui en ont parlé, ce ne sont même pas des imbéciles, comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Oui, là je commence à entrer dans la prudence et à me poser une question. Et je vous ai dit tout à l'heure, les traditions religieuses suffisent pour poser un acte d'adoration. Parce que les traditions religieuses véhiculent le fait qu'il existe un créateur dont l'homme dépend. Par conséquent, l'adoration va impliquer qu'on prenne conscience que tout ce qu'on est dépend radicalement de l'être premier créateur. Et donc, que ma vie lui appartient avant de m'être remise. Et ça change complètement ma vie du point de vue pratique, c'est évident. Mais je vais revenir là-dessus dans un instant. Donc vous voyez, je dis bien, on ne peut pas poser un acte prudent sans être finalisé. Et c'est pour ça que pour Aristote, tant qu'on n'a pas découvert sa finalité, on doit obéir. C'est pour ça qu'il dit, on quitte l'enfance pour devenir un homme prudent, pour devenir un homme capable de gouverner sa vie, quand on acquiert la prudence. Ce qui n'est pas une question d'âge, dit Aristote. Il y a des gens très âgés qui, n'ayant jamais acquis la prudence, se comportent comme des enfants, dit-il au début de l'éthique. Alors il ajoute sévèrement, pour eux, suivre un cours d'éthique n'est d'aucun profit, parce qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils sont restés toute leur vie dans la passion. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un amour spirituel. Et c'est Aristote qui dit ça, je me cache derrière lui. C'est important, oui. Alors après, il y a une question tout à fait pratique. En combien de temps, et ça je pense c'est pour vous encourager, en combien de temps peut-on acquérir une sagesse philosophique? Et ben pendant toute votre vie. La philosophie, est, vous voyez, la philosophie n'est pas quelque chose qu'on acquiert. C'est pas de dire ça y est, maintenant, oui, ah ça y est, j'ai fait 3 ans d'études, ça y est. Maintenant, je suis philosophe. Vous n'avez rien compris alors. Parce que la philosophie, c'est chercher la vérité. Et la sagesse philosophique, c'est une vie, vous voyez, c'est pas un savoir. C'est pour ça que c'est très important de bien comprendre. La philosophie n'est pas un savoir positif qu'on connaît et qu'on apprend dans des bouquins. La sagesse philosophique, c'est la vie de l'homme qui cherche la vérité et le sens de sa vie. Donc c'est le développement naturel de l'intelligence humaine. Vous voyez, c'est pas un savoir. C'est pour ça qu'elle seule est une sagesse. Les sciences modernes ne sont pas des sagesses. Parce qu'elles sont subordonnées aux mathématiques. Et c'est une des grandes aussi réflexions, mathématiques et philosophie. Et la philosophie est une sagesse parce qu'elle s'intéresse à l'homme et à la finalité de l'homme, c'est-à-dire à ce qui donne à la vie de l'homme son sens plénier et ultime. Donc c'est des questions qui touchent l'homme dans sa vie concrète. Vous êtes philosophe dès que vous réfléchissez sur le sens de votre vie. Dès que vous commencez à chercher la vérité, vous entrez en philosophie. Et donc, vous y êtes donc entré. Mais savoir quand est-ce que j'acquiers la sagesse philosophique, c'est toute notre vie. C'est une recherche de vérité incessante. Oui. Et plus on avance, plus on voit qu'il y a à découvrir et à reprendre. Donc oui, je crois qu'il faut bien voir ça. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Celui qui choisit de vivre seul plutôt que de mal vivre à deux. Peut-on dire que sa conduite est amorale? C'est très délicat de répondre à ça. Vous voyez, c'est... Vous voyez, c'est... Qu'est-ce qui... Au fond, vous voyez, c'est une question qui va toucher l'éthique religieuse, ça. Parce que qu'est-ce qui légitime... Qu'est-ce qui légitime, entre guillemets, de dépasser... Mais je dis dépasser entre guillemets, parce que je viens y revenir. Hein, de dépasser l'amour d'amitié. Seule la découverte de Dieu. Et donc c'est pour ça que... Mais quand je dis dépasser, ça ne veut pas dire, vous voyez, supprimer. Hein. L'adoration ne supprime pas l'amitié, au contraire, elle la rend encore plus profonde. Mais elle la relativise en tant qu'elle me fait comprendre que l'ami que j'aime est relatif à Dieu. Et donc Dieu l'a aimé avant que je l'aime. Et ce qui me donne un amour bien plus grand de lui. Mais ça, j'y reviendrai. Hein. Et donc... Je dirais, c'est important parce qu'au fond, vous voyez, la seule chose qui peut légitimer, entre guillemets, de dépasser l'amour d'amitié, c'est une finalité plus profonde. Donc, qu'est-ce qui peut seul dépasser la personne humaine? Une personne plus grande que l'homme. Alors, et c'est évident que s'il s'agit de mal vivre à deux, c'est d'accord, mais c'est même plus un amour d'amitié. Vous voyez. Mal vivre à deux, c'est plus l'amitié. Et c'est pour ça que je dis bien. Hein. C'est pour ça que je dis bien, vous voyez, qu'il faut faire attention. Hein. L'analyse qu'on vous propose, c'est pas une méthode à appliquer. Hein. Parce que vous voyez, quelquefois, il y a des gens qui croient ça, vous savez. Alors, elles disent, ah oui, alors, on a parlé du premier amour, de l'intention de vie, du choix, de l'impact. Où est-ce que j'en suis? C'est pas ça du tout, vous voyez. Non, vous voyez, faites bien attention, on part d'une expérience humaine parfaite, qui implique le choix d'une personne humaine. Et Aristote souligne qu'une amitié comme ça est très rare, dit-il. Alors, ça l'attriste. Mais, alors, je ne dirais pas qu'il faut que l'expérience soit parfaite pour qu'on fasse de la philosophie. Non, il faut un minimum d'expérience. Mais il faut avoir compris ce que c'est que le vrai choix d'une personne humaine. Et déjà, ça, ce n'est pas évident, ça exige beaucoup de temps. Vous voyez, ce n'est pas, tiens, j'ai croisé quelqu'un dans la rue, crac, ça y est, c'est mon ami. Non. Il faut avoir, vous voyez, Aristote fait cette remarque très jolie, il dit, il faut avoir consommé ensemble une mesure de sel, dont parle le dicton, pour dire qu'on est vraiment amis. Il faut avoir pris beaucoup de repas ensemble. C'est-à-dire qu'il faut avoir longuement fréquenté l'autre pour vraiment comprendre en profondeur sa personne. Et pour dépasser toutes les séductions apparentes, oui, pour vraiment atteindre sa personne. Parce que si on reste dans la séduction, quand la séduction tombe, hein, l'amour disparaît. Alors c'est qu'il n'y avait pas d'amour spirituel. Donc, oui, faut voir, oui, c'est pas commode. Hein. C'est, l'amour d'amitié, c'est une expérience humaine extrêmement profonde. C'est pas comme ça n'importe comment. Donc c'est, voyez, l'analyse qu'on fait, c'est une analyse qui regarde objectivement. Il ne s'agit pas d'appliquer ça comme une méthode. Ça doit nous éclairer pour comprendre dans notre vie l'importance du choix amical par rapport à une personne. Que c'est là que notre responsabilité humaine morale est pleinement engagée. Parce que vous voyez, s'engager à propos des carottes et des navets, ça ne nous engage pas très loin. L'engagement par rapport à des choses matérielles ne nous engage pas très profondément. C'est uniquement une question de contrat de justice, et en définitive, ça se rapporte toujours à une personne. Oui, c'est important de voir que ça, faudrait creuser beaucoup, vous voyez, de voir que seul l'amour d'amitié peut vraiment être source d'une éthique humaine plénière. Parce qu'en définitive, tous les actes qui engagent notre responsabilité, en définitive, se ramènent à la personne humaine. Or, la personne humaine, je la rejoins parfaitement dans l'amour d'amitié. Le lien de l'homme avec l'homme, d'une personne humaine avec une personne humaine, il est parfait dans un amour spirituel réciproque qui implique un choix libre. Je dis bien que c'est la relation humaine parfaite. Et Aristote fait cette remarque encore très juste. Il dit, les hommes qui ne vivent qu'au niveau de la justice, il faudrait qu'ils découvrent ce que c'est que l'amitié. Car on ne peut pas rester uniquement au niveau de la justice. Et c'est très juste. Si vous restez dans des rapports de justice, vous devenez des hommes, vous voyez, isolés les uns par rapport aux autres. Et c'est donnant-donnant. On devient stoïcien. Donc vous voyez, je crois que c'est important de bien voir ça. Ah bon, après vous dites, c'est une autre question, mais je ne vais pas entrer là. Que dire à ceux qui n'arrivent pas à avoir d'amis et ne rencontrent pas cet amour d'amitié? C'est vrai, hein, c'est une question qui est douloureuse, ça. C'est vrai que le manque dans l'ordre de l'amour d'amitié est une blessure pour la personne humaine. Alors, peut-être on va voir par rapport à l'éthique religieuse. Hein. J'essaierai de voir s'il y a quelque chose qui peut vous éclairer. Je ne prends pas les autres questions, c'est des questions qui touchent l'éthique chrétienne. Hein. Donc, je les renvoie pour dimanche. C'est des questions sur la grâce et le martyr, etc. Donc, c'est l'éthique chrétienne. Donc, vous voyez, je suis resté tout à l'heure sur cette question en essayant de vous montrer comment on peut découvrir ce qui peut nouer un nouveau développement de l'éthique, qui n'est plus seulement une éthique relative à une personne humaine, mais une éthique religieuse. Donc, vous voyez, je peux très bien uniquement m'arrêter déjà à une constatation, si vous voulez, d'ordre humain de l'expérience. Il existe une éthique religieuse. Puisqu'il y a des hommes religieux qui vivent d'une certaine manière. Je vous ai cité l'exemple, par exemple, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme, ce sont des traditions religieuses. Et regardez la tradition religieuse grecque, etc. Donc vous voyez, c'est un fait humain pour commencer. Et donc, je peux constater ça, et je peux m'intéresser à ce que disent ces hommes, ils disent, mais pourquoi vivent-ils de cette manière particulière? Y a-t-il quelque chose dans leur vie qui explique cette manière particulière de vivre? Vous voyez, c'est uniquement une constatation humaine. Et je vous ai dit ça, c'est vraiment de l'ordre de la prudence. Vous voyez, comprendre l'expérience des hommes implique la prudence. Donc, au niveau de la prudence, déjà, vous voyez, cette expérience humaine de l'attitude religieuse m'interroge et me fait poser la question, est-ce que vraiment la personne humaine, l'homme, est-il la seule fin de l'homme? Ou bien, existe-t-il un être plus grand que l'homme, et s'il existe, est-il sa fin? Est-il une fin ultime pour lui? C'est-à-dire un bien plus ultime que l'homme, capable de susciter dans son cœur un amour nouveau. Et donc c'est déjà une question d'ordre prudentiel. Vous voyez, ça, c'est vraiment la prudence. Je vois que ça existe. Donc ça me pose une question philosophiquement. Je n'ai pas le droit de dire a priori, mais ça n'existe pas. C'est quantité négligeable. Mais pas du tout. Ça joue un rôle extrêmement important, même dans la culture des hommes. C'est ce que dit Hegel, il a tout à fait raison. Le point de départ de toute culture est religieux. Et c'est vrai. Toutes les grandes cultures sont fondamentalement religieuses. Et tous les arts sont d'abord religieux. L'art a commencé avec un art religieux, lié à l'aspect de la mort et de la naissance, de la fécondité, etc. Qui fait poser à l'homme des questions nouvelles. Pour que cette éthique religieuse devienne vraiment une éthique religieuse, philosophique, alors ça engage un autre point de vue. Parce que vous voyez, tant que je dis ça, je dis, bon voilà, ça me suffit au niveau de ma vie pratique, c'est vrai. Si Dieu existe, c'est quand même important d'en tenir compte dans ma vie morale. Je n'ai pas le droit de vivre comme si Dieu n'existait pas, s'il existe. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le pari de Pascal a quelque chose d'intéressant au niveau pratique de la prudence. Ne pas tenir compte de cette opinion vénérable serait imprudent. Oui, c'est oui, comme si, je sais pas, oui, je prends un petit exemple, rien du tout. Oui, ne pas m'informer d'un fait capital pour la vie des hommes, c'est imprudent. Donc, cette opinion, oui, si je dis, les traditions religieuses qui me parlent de l'existence de Dieu, je dis bien que c'est une opinion. Ce sont des opinions. Donc ça reste au niveau uniquement, vous voyez, courant, si vous voulez. Mais c'est l'opinion humaine la plus vénérable. L'opinion à propos des traditions religieuses est une opinion qui est beaucoup plus importante qu'une opinion politique ou que sais-je. Avoir l'opinion que Dieu existe, c'est extrêmement important au point de vue prudentiel. Donc oui, je dois en tenir compte. Et deuxièmement, pour que cette éthique religieuse soit vraiment philosophique, c'est-à-dire que je comprenne une nécessité humaine par rapport à cela. Ah, ça exige une découverte de l'intelligence. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette prudence humaine qui peut être éclairée par des opinions, pour être vraiment approfondie et devenir pleinement source d'une éthique religieuse, d'un nouveau développement de l'éthique, ça exige la découverte philosophique de l'existence de Dieu, le Créateur. Et donc je dis, du point de vue pratique, je peux adorer Dieu sans avoir encore découvert qu'il existe par moi-même en philosophie. Mais si je l'adore, ça exige de moi que je me pose vraiment la question jusqu'au bout de la vérité. Qui est-il vraiment? Qu'est-ce que c'est que la vérité sur Dieu? Adorer Dieu, ça exige que je comprenne qui il est. Et donc, je veux chercher la vérité. Et donc, découvrir la vérité plus profonde sur celui qu'on appelle Dieu, c'est cela qui va approfondir mon expérience religieuse de manière tout à fait nouvelle. Elle va devenir alors personnelle. Et si je reste uniquement au niveau d'une opinion des traditions religieuses, je risque de rester un petit peu à une convention. Oui, je suis par exemple né dans un milieu religieux. J'ai été éduqué, adoré. Donc j'adore. Et ça reste un peu conventionnel. Et alors ça risque de devenir, si je ne comprends pas vraiment personnellement qui est Dieu, ça risque de devenir finalement, hein, au bout du compte, si la tradition se sclérose un peu, une espèce d'impératif catégorique, oui. On m'a dit, il faut adorer. Alors, Dieu apparaît finalement comme un tyran progressivement. Et c'est comme ça, mais c'est intéressant, parce que quand les traditions religieuses se corrompent, elles deviennent quelque chose qui, loin d'aider, étouffe. Et les traditions familiales et religieuses, vous savez, on a toujours fait comme ça, on entend ça. On a toujours fait comme ça, on ne voit pas pourquoi on changerait la tradition. Ah mais est-ce que cette tradition est vraie? Et les traditions religieuses qui sont de l'ordre des opinions exigent constamment qu'on revienne à la source. Et c'est pourquoi c'est le rôle du philosophe de purifier les traditions religieuses en cherchant la vérité. Et c'est ce qu'ont très bien montré les Grecs. Oui, et c'est, oui, par exemple, quand on va en Afrique aujourd'hui, c'est très frappant, ça, parce que ça, en Afrique, c'est encore vivace, cette tradition religieuse, très très fort. Et il y a un rôle de la philosophie. Alors vous voyez qu'en Europe, on a une culture complètement aseptisée, oui, les traditions religieuses sont très très loin. On les a même rejetées. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que les traditions religieuses me posent un problème, mais ça ne suffit pas pour aller jusqu'au... de mon être, celui dont je dépends actuellement, parce qu'il est le créateur de mon âme spirituelle. Mais tant que l'adoration, je veux dire, tant qu'on n'a pas découvert, d'une manière personnelle par la philosophie, l'existence de l'être premier, du moins tant qu'on n'en a pas le désir, parce que vous voyez, le découvrir c'est un chemin très long, mais au moins comprendre l'importance de cette recherche, que notre intelligence est faite pour parler de Dieu, qu'elle est faite pour chercher qui il est. Comment qu'on s'intéresse à cette question? Alors on comprend que ça nous engage dans notre personne. Mais tant qu'on n'a pas fait cette découverte, l'adoration en nous n'est pas tout à fait personnelle. Elle ne prend pas toute notre personne. Donc elle risque de devenir, je vous dis, une espèce d'impératif catégorique. Ce qu'on voit très très bien, c'est, je ne cite pas de choses, mais on voit certains pays qui ont tenu bon, vous savez, par des traditions religieuses contre des régimes athées. Et puis quand le régime athée disparaît, le pays s'écroule. Il n'y a plus personne qui pratique rien du tout. Tradition religieuse, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Hein, vous savez, c'était un évêque qui était passé chez nous il y a quelques années qui avait dit ça, qu'en 2 ans, son pays était passé de 98% de pratiques religieuses à 3%. Et au fond, ça montrait que, au lieu d'être. C'est le problème chrétien qui est encore touché là, mais qu'au fond, la foi n'était plus vivante, qu'on était uniquement resté au niveau d'une tradition religieuse et familiale. On allait toujours à la messe le dimanche, c'est la tradition. Puis d'un coup, on se rend compte que c'est vide, parce qu'on n'a jamais découvert ce que ça veut dire. Et donc, à quoi bon? Ça ne sert à rien. Oui, c'est pour ça que découvrir de l'intérieur qu'est-ce que c'est vraiment que Dieu, qui est Dieu, découvrir d'abord qu'il existe, qu'il est le Créateur, c'est cela seul qui peut jusqu'au bout fonder une adoration qui soit pleinement personnelle, qui m'engage dans tout ce que je suis. Oui, c'est donc le problème de l'adoration qui va être la clé et la pierre de fondamentale. Je dis bien l'aspect fondamental de l'éthique religieuse. L'éthique religieuse, elle repose sur l'acte d'adoration. Je n'entre dans l'attitude religieuse que quand j'adore. Qu'est-ce que ça veut dire, adorer? Oui, et je vous dis bien, l'adoration ne va pouvoir prendre toute sa taille comme acte humain que quand elle présuppose la découverte de l'existence de l'être premier créateur. L'éthique religieuse, vous voyez, elle est donc comme subordonnée, dépendante de la philosophie première, d'une théologie naturelle, c'est-à-dire d'une sagesse philosophique qui a découvert l'existence de Dieu. Pour parler d'une éthique religieuse philosophique, qui est donc un statut pleinement philosophique, il faut avoir, ça présuppose la découverte de l'existence de l'être premier. Donc, oui, je vous dis, c'est présupposé connu, ce que je vais dire maintenant. Ça, c'est présupposé connu. Donc, vous avez demandé combien de temps faut-il pour entendre une sagesse philosophique. Comprenez que ce qu'on va dire sur l'éthique religieuse, ça présuppose ça. Ça présuppose qu'on ait découvert l'existence d'un être premier créateur. Même si, du point de vue pratique, dans notre vie morale de tous les jours, les traditions religieuses suffisent à ce qu'on pose un acte d'adoration. Mais pour qu'on le purifie, pour que l'adoration soit vraiment pleinement ce qu'elle doit être en nous, ça exige qu'on cherche vraiment à connaître qui est Dieu. Et d'abord, savoir s'il existe vraiment. Parce que oui, si j'adore un mythe, ça va pas, quoi. Et donc, je projette, ce que dit Feuerbach, je projette dans le ciel les qualités qui devraient m'appartenir, en fait. C'est comme ça que c'est ce que dit Feuerbach, le premier qui fasse une philosophie athée comme système. Il dit ça, il dit, jusqu'à maintenant, en fait, l'homme est malheureux sur la terre, il reprend la conscience malheureuse de Hegel, et il dit, l'homme est malheureux sur la terre, donc il projette dans le ciel des dans un ciel idéal, un être extraordinaire paraît toutes les perfections. En fait, c'est lui qui est le Dieu. Donc il faut supprimer ce Dieu et remettre Dieu sur la terre, redonner à l'homme ses qualités. Et c'est évident que si Dieu n'existe pas, l'adoration est un mythe. Ou comme dit Marx, c'est l'opium du peuple et la religion. C'est se gargariser d'un idéal pour supporter cette vie présente qui n'est pas très drôle. Est-ce que c'est vraiment ça? Et donc c'est capital, vous voyez. Et comme philosophe, je n'ai pas d'a priori, je ne tiens pas compte de la foi ici. Comme philosophe, je suis un homme qui part de son expérience. Or, je n'ai pas l'expérience de Dieu. Je n'ai jamais rencontré Dieu, humainement. N'en ayant pas d'expérience, son existence n'est pas évidente pour moi au point de départ. Et si on avait tous rencontré Dieu en se levant le matin, ça irait très bien. C'est pas commode, vous voyez. C'est pour ça que l'adoration, comme attitude religieuse, elle est extrêmement exigeante pour l'homme. Et en même temps, elle seule va donner tout son sens à ce qu'il est et à sa vie. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire philosophiquement sur l'adoration? Qu'est-ce que c'est que l'acte d'adoration? Est-ce que c'est ça? L'expérience que j'ai comme homme religieux, c'est l'expérience de l'adoration. Je n'ai pas l'expérience de Dieu, mais j'ai l'expérience d'un acte volontaire d'adoration dans lequel je reconnais ma dépendance actuelle à l'égard du Créateur. Oui, ça exige donc qu'on ait compris qu'il existe un être premier, qui est le Créateur de notre âme spirituelle, source de notre être. Et adorer, c'est reconnaître volontairement cette dépendance. Et c'est donc un acte moral, puisque ça relève de ma volonté. Et je peux adorer ou ne pas adorer. Ça implique une liberté d'exercice. Ayant découvert qu'il existe un Créateur, j'accepte de reconnaître cette dépendance ou je ne l'accepte pas. Ou bien je fais comme si ça n'existait pas. Vous voyez, l'adoration est bien un acte qui m'engage, parce que ça exige que moi, je pose cet acte. Et l'adoration, c'est moi qui adore. Et c'est bien ça, la source de l'attitude religieuse. Vous savez ce que dit saint Augustin, et je crois que ça vient déjà de Cicéron. Religio, ça vient de religere, qui veut dire relier. C'est classique. Faire le lien. Qu'est-ce qui fait la relation entre l'homme et Dieu? Seule l'adoration. Parce que l'adoration, c'est comprendre concrètement qu'on est une créature face au Créateur. Et donc l'homme, dans l'acte d'adoration, reconnaît et prend pleinement conscience du fait qu'il est une créature, c'est-à-dire un être tout entier dépendant dans son être de l'être premier créateur. Tout ce que je suis dépend radicalement de lui. Je n'existe que par lui. Il est le créateur de mon âme, actuellement. Mais c'est pas une pichenette au point de départ, puis après, elle va comme je te pousse, non? En Dieu, l'acte créateur est un acte éternel, même si son effet est dans le temps pour nous. Et donc, adorer, c'est rejoindre dans un acte volontaire cet acte créateur de Dieu et de Dieu qui est présent à moi comme créateur. Elle se fonde donc, l'adoration, sur l'omniprésence de Dieu. Dieu comme créateur est présent à toutes ses créatures. Et adorer, c'est vivre dans cette présence. C'est reconnaître cette dépendance. C'est donc, vous voyez, me tourner vers cette source. Ah oui, là, il y a ici un point extrêmement important et qui est, c'est vrai, qui est très, je crois, très important pour la vie de l'homme, voyez. Est-ce que reconnaître cette dépendance est une aliénation? Et c'est ce que dit Marx. Pour Marx, l'attitude religieuse est une aliénation. Ah oui, est-ce que dépendre de Dieu est une aliénation? Est-ce que ça me limite? Vous voyez, c'est important de voir ça. Je dis mon être, donc qui implique une autonomie personnelle. Je suis autonome. Il dépend radicalement du Créateur. Alors oui, est-ce que cette dépendance est quelque chose qui m'aliène, qui me limite, qui me contraint? Donc est-ce que le Créateur est un tyran qui est là à me surveiller? Ou bien est-ce que c'est au contraire un acte d'amour qui est découvrir la source? Et donc, adorer, c'est rejoindre la source. C'est vivre dans la dépendance actuelle par rapport à la source de notre être. C'est donc l'acte qui nous met dans la vérité pratique de ce que nous sommes. Et tout ce qui ne repose pas sur l'adoration est faussé dès le point de départ. C'est ce que dira l'homme religieux tout de suite. Oui. Parce que si Dieu est le Créateur, et que adorer, c'est reconnaître que tout ce qui existe en dehors de Dieu dépend de lui dans son être, construire sa vie en dehors de l'adoration, c'est construire sa vie comme un colosse sur des pieds d'argile. Oui. Ça ne repose sur rien. L'adoration, c'est le roc. Oui. Le Créateur, je le découvre comme le roc, celui sur qui je m'appuie, puisqu'il est la source de mon être. Et c'est très important de voir ça, vous voyez. C'est donc une découverte qui n'est pas vue comme une dépendance qui me limite. Vous savez ce que dit déjà Plotin? Plotin dit ça. Plotin dit « Dépendre d'un être inférieur à soi est une limite. Dépendre d'un être supérieur à soi est une libération. » Et c'est vrai. C'est déjà vrai au point de vue humain. Quand on dépend de quelqu'un qui est plus grand que nous, ça nous libère parce qu'on prend progressivement la taille de celui qui est plus grand que nous. Et il nous entraîne. Évidemment, dépendre de quelqu'un qui est inférieur à nous, ça nous limite, parce qu'on prend progressivement sa taille. Vous voyez, hein, celui qui est dépendant de son petit chien devient progressivement chien. Vous voyez. Vous voyez. Même dans son visage. Hein, vous voyez. Prend progressivement les traits du chien. Vous voyez. Hein, parce que l'ami est un autre nous-mêmes. Hein, donc, si l'ami est un autre nous-mêmes, si le chien est un autre moi-même, vous voyez, bigre. Et dépendre d'un être inférieur à nous nous limite. Dépendre d'un être supérieur à nous, plus grand que nous, nous libère. C'est évident. Ce n'est pas une limite, c'est une libération. Et donc, vous voyez, l'adoration, c'est bien quelque chose qui nous fait découvrir une finalité qui nous agrandit. L'homme dépasse l'horizon humain pour découvrir celui qui est à la source de tout. C'est vrai, je dis bien, vous voyez, tout ce qui est dans notre vie ne sera pas vécu dans cette lumière ultime de l'adoration, finalement, ça devient quelque chose qui est artificiel. Alors, vous voyez, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous savez. L'artificiel, tel qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'homme prétend construire tout par lui-même et se masque, hein, le visage, pour être sûr de ne pas se poser cette question-là. Parce que dès qu'il se pose la question, il voit que tout ce qui a été fait en dehors de ça ne tient pas. Voyez, c'est temporel. Ce n'est pas une destinée capable de montrer le sens de la vie ultime de l'homme, le sens ultime de la vie de l'homme, vous voyez. Donc, c'est important, vous voyez, de voir que l'adoration, c'est bien un nouvel amour qui me fait découvrir un bien, le bien premier, source de tout amour et source de ce que je suis dans mon être. C'est donc trouver par l'adoration la stabilité fondamentale. Et par l'acte d'adoration, l'homme repose sur le roc et, si vous voulez, rejoint sa source. Ce sont des termes qui ne sont pas adéquats, vous comprenez. C'est des termes qui semblent presque se contredire. C'est un roc, quelque chose de fondamental, et en même temps c'est quelque chose d'ultime. Dieu est celui qui me porte, et Dieu celui qui m'attire. En l'aimant, je découvre celui qui est à la source de tout, dont je dépends actuellement. Donc celui qui seul peut me donner une stabilité parfaite. C'est pour ça que je disais que l'éthique religieuse, elle repose fondamentalement sur l'adoration. C'est le fondement, source de la stabilité profonde de la vie humaine. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir tout ce que ça implique, si vous voulez. L'attitude d'adoration, vous voyez, donc, elle est cette reconnaissance volontaire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, elle implique donc une liberté d'exercice. J'accepte ou je refuse, mais elle implique aussi un choix. Ah oui, ça c'est très, très intéressant à creuser. Dans l'adoration, je dois choisir de m'engager tout entier dans l'acte d'adoration. Et donc, ça engage ma responsabilité morale. C'est pour ça que pour saint Thomas, l'adoration est au niveau de la justice. Adorer, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Parce que s'il est le Créateur, l'adoration lui est due, comprenez? C'est pas une faveur qu'on lui fait. Ah, tiens, je suis content de t'adorer. Non, c'est une nécessité. C'est une justice par rapport à Dieu. La religion, c'est quelque chose qui implique, c'est un amour, mais qui en même temps implique une justice. Parce que c'est ce qui est dû, vous voyez. C'est pour ça que ça implique, vous voyez, de reconnaître que c'est une vérité pratique. L'adoration nous met dans la vérité pratique la plus fondamentale. Puisque c'est découvrir la vérité la plus fondamentale de l'homme, que l'homme est une créature. Il n'existe pas par lui-même, mais en dépendance de Dieu créateur. Et découvrant cette vérité, le reconnaître dans ma vie pratique, c'est une vérité pratique, oui. C'est pour ça que c'est important, vous voyez. On n'est dans la vérité pratique plénière que grâce à l'adoration. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est bien quelque chose qui va permettre à la prudence d'être parfaite, parce que la prudence est au niveau de la vérité pratique. Est-ce que je vis vraiment conformément à ma fin ? Tant que je n'ai pas découvert l'existence de Dieu comme créateur, je n'ai pas découvert de manière plénière la fin ultime de l'homme. Donc je n'ai pas une vérité pratique ultime. Vous voyez que c'est très intéressant, ça montre bien comment on va vivre de l'amitié alors. Mais vivre de l'amitié comme si, en faisant comme si l'ami était vraiment ma fin ultime qui donne sens plénier à toute ma vie, finalement ça devient mensonger. Et, hein, c'est... Alors je vous ai dit ce matin, hein, cet après-midi, celui qui n'a pas encore découvert Dieu, c'est très bien. Et celui qui l'ayant découvert continue à vivre comme ça, c'est dangereux. Ça devient ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Hein. Et, hein, si Dieu existe et que je l'ai découvert, ne pas tenir compte de ça dans mon amour d'amitié, c'est-à-dire vivre comme si l'ami était ma fin ultime plénière, oui, ça devient un rival par rapport à Dieu alors. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, hein, de voir comment l'adoration va transformer l'amour d'amitié. Elle ne le supprime pas, au contraire, elle le rend encore plus grand. Mais il y a un danger, c'est que si je n'adore pas, donc si je ne reconnais pas cette dépendance actuelle par rapport au Créateur, je risque de croire que mon amour d'amitié peut donner pleinement son sens à toute ma vie. Donc quand l'ami meurt, c'est la fin de ma vie, c'est le drame. Vous voyez que le problème de la mort va jouer un rôle extrêmement important ici. Donc le problème de la souffrance. Parce que vous voyez, si l'ami est ma fin ultime, alors vous voyez, c'est très bien ce qu'a senti Camus, ça, vous voyez. Hein, quand Camus parle de l'absurde, hein, le mythe de Sisyphe, c'est ça qu'il veut dire. Si la vie de l'homme est faite pour un bonheur humain, et que finalement ce bonheur se détruit complètement, que c'est la mort qui est le terme de tout, mais la vie de l'homme est absurde, c'est un éternel recommencement qui n'a jamais de fin. Vous voyez, c'est un cycle infernal. Vous voyez, c'est pour ça que c'est capital. Hein. L'adoration est ce qui seul va permettre de dépasser ce conditionnement-là, pour avoir un autre regard sur le problème de la fin de la vie de l'homme et sur l'amour d'amitié. Mais ça, j'y reviendrai demain, hein, oui, en voyant qu'est-ce que l'adoration va changer dans notre amour d'amitié. Voyez, elle va donner un caractère particulier. L'homme qui adore vit avec l'ami d'une manière différente que l'homme qui n'adore pas. Et loin de supprimer l'amour d'amitié, ça lui permet d'être parfaitement vécu. Et n'opposons jamais Dieu et l'homme. Il n'y a jamais de rivalité. Mais si je refuse la présence de Dieu, alors oui, l'homme peut devenir rival. Et c'est très subtil, hein. Mais bien la différence. Si je n'ai pas encore découvert Dieu, l'éthique de l'amour d'amitié est une véritable éthique fondamentale. Mais si l'ayant découvert, je refuse de prendre en compte cette dimension et... Oui, de comprendre ce que c'est que l'adoration, qui est de reconnaître cette dépendance. Je fais donc de l'ami une idole, puisque je le mets à la place de Dieu. Je considère que ma vie ne prend son sens que par rapport à une personne humaine. Et donc le jour où cette amitié ne s'exerce plus à cause de la mort, c'est la fin des haricots. Vous savez, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on avait vu une fois, vous savez, c'est un débat qui est éternellement relancé actuellement, le problème de l'euthanasie. Et où des gens disaient ça, justement. C'était des gens qui se disaient ouvertement athées, qui vivaient ensemble, et qui disait, hein, ah, c'est bien simple, quand on verra qu'on veut l'un ou l'autre risque de mourir, hein, eh bien on se suicidera ensemble pour être sûr de ne pas être séparés. Parce que l'un sans l'autre, une vie n'a plus de sens. Et c'est important, oui, de voir ça. Hein. Est-ce que vous voyez, Aristote se pose déjà la question. Aristote dit ceci, il dit, si l'homme était la réalité la plus parfaite de l'univers, alors la prudence et la politique seraient la sagesse philosophique. C'est tout à fait juste. Si c'est l'homme qui est le terme de tout, c'est la prudence qui est le terme de tout. C'est l'homme qui régit les choses humaines. Mais dit Aristote, mais puisque l'homme n'est pas la réalité ultime et qu'il existe une réalité au-delà de l'univers, la prudence n'est pas une sagesse. Seule la contemplation qui implique l'adoration peut donner à l'homme le sens ultime de sa vie. Vous voyez, donc c'est comme un dépassement, si vous voulez. Hein. Vous voyez, on a vu tout à l'heure, hein, l'acte humain, donc la responsabilité morale, se noue dans le rapport de l'homme par rapport à l'homme. Et l'adoration, c'est comme une brèche qui ouvre le cœur de l'homme à la découverte d'un absolu qui le dépasse. Quand il reconnaît qu'il existe le Créateur et que lui est une créature qui dépend de lui. Dans tout ce qu'il est. Et c'est donc la vérité pratique fondamentale. Par conséquent, c'est bien source d'une nouvelle liberté. L'adoration seule nous libère. Et ça, c'est une chose très importante. Vous voyez, ça, c'est la réclame pour l'adoration. Parce que les gens sont tous d'accord pour ça. Quand on parle de vérité pratique, ils aiment moins. Parce que, vous voyez, ils sentent bien quelque chose à rectifier. Hein. Dit que la liberté, on est tous d'accord. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Hein. Pédagogiquement. Et l'adoration, c'est la libération de tous les conditionnements. Parce que ça me fait comprendre que je ne dépends que de Dieu. Fondamentalement, je ne dépends pas de l'autre dans mon être. Et donc ça me libère de toutes les opinions, de tous les conditionnements, de tous les jugements extérieurs. Vous voyez, au fond, ça me fait comprendre que seul Dieu me connaît pleinement de l'intérieur. Puisque je viens de lui, je suis créé par lui. Vous voyez, ce qui est très consolant. Parce que vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure, que répondre à ceux qui ne découvrent pas l'amour d'amitié ? Eh bien, c'est le point de vue de l'adoration. Même si une personne humaine ne me comprend pas, il y a toujours un qui me connaît et qui me comprend l'intérieur. Vous voyez ce que dit déjà le livre de Samuel, qu'on peut prendre philosophiquement. Dieu regarde les intentions, les hommes regardent les apparences, Dieu sonde les reins et les cœurs et juge des intentions et des pensées. Vous voyez, seul Dieu me connaît parfaitement de l'intérieur, les hommes me voient toujours de l'extérieur. Même mon ami. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que vous voyez, là, il y a une nostalgie dans l'amitié. On voudrait, dans l'amitié, être dans une limpidité complète. On voudrait qu'on connaisse parfaitement l'autre et qu'il nous connaisse parfaitement, que tout lui soit ouvert. C'est jamais possible. Il y a toujours une opacité, ce qui est source d'un drame humain, de tous les romans. Oui. Et si on voit ça dans une nouvelle lumière qui est celle de l'adoration, on trouve la liberté profonde. Parce qu'on sait que l'ami est connu par Dieu. Et qu'en adorant Dieu, je rejoins le cœur de l'ami dans ce qu'il y a de plus profond, tel que Dieu le connaît. C'est très fort, oui, ça. L'adoration nous met en présence de Dieu, et donc nous permet de regarder l'ami dans une autre lumière. Même si moi je ne sais pas tout, oui, Dieu le regarde comme un père et l'aime. Donc l'adoration me donne le sens du respect de l'autre, bien plus profondément. C'est-à-dire que dans l'amour d'amitié, oui, quand on n'est pas content qu'il n'y ait pas une limpidité complète, oui, on cherche toujours un tout petit peu à accaparer l'autre. Et on fait, oui, comme si on est un peu dans une espèce d'intersubjectivité, et on croit par là trouver les choses. Mais non, c'est un goût de cendre, ces choses-là. Et l'adoration nous libère de ça. Parce qu'elle nous fait comprendre que le seul absolu plaignant pour le cœur de l'homme, c'est Dieu. Et dans cette lumière, vous voyez, ça fait comprendre l'ami d'une lumière beaucoup plus profonde. Oui, donc ça ne supprime pas l'amour d'amitié, ça le relativise divinement. C'est-à-dire, c'est regarder l'ami dans la lumière même de Dieu. L'adoration nous fait comprendre ça. Oui, je dis donc, source d'une liberté. C'est pour ça que, vous voyez, l'adoration, c'est bien ce qui est du côté, ce qui libère le cœur de l'homme. C'est une libération. Et donc, c'est ce qui supprime fondamentalement toute angoisse. Le seul remède plaignant par rapport à l'angoisse, c'est l'adoration. Parce que l'angoisse vient de quoi ? Du fait qu'on perd le contact avec le roc. On ne sait plus où on va. On ne sait plus sur quoi on repose. C'est pour ça que c'est très important de distinguer bien l'angoisse et la peur. La peur a toujours un objet. J'ai peur de l'orage. Ça, c'est un objet. C'est une passion. C'est que l'angoisse n'a pas d'objet. L'angoisse, c'est indéterminé. On ne sait plus où on va. On est livré au hasard. Or, si on est livré au hasard, c'est source d'angoisse, vous comprenez. On ne sait pas où on va. Donc, vous voyez, l'adoration nous donne le sens, nous fait découvrir un abandon divin. Je sais que je suis entre les mains de Dieu puisqu'il est la source de mon être. Et donc, tout ce que je suis et tout ce qui peut m'arriver, c'est dans la lumière de Dieu. Donc, je lui remets entre ses mains tout ce que je suis, toute ma vie, tous les événements de ma vie qui m'arrivent. C'est pour ça que je ne cherche plus qu'une seule chose, vous voyez. C'est pour ça que ça me libère. La liberté qui vient de l'adoration, c'est ne plus vouloir regarder les choses que dans la lumière de Dieu comme créateur. Ça me donne donc un abandon divin, qui n'est pas un abandon psychologique, attention. L'abandon psychologique, c'est dire, je m'en fiche de toute façon, laissons aller les choses, et c'est le fatalisme. Ah non, c'est pas ça. L'abandon divin qui repose sur l'adoration, c'est extrêmement positif, c'est très déterminé. C'est vouloir vivre en toute chose du regard de Dieu comme père et comme créateur. Donc vous voyez, ça me libère de toute angoisse. Ça me met dans cette certitude intérieure que je suis entre les mains de Dieu, qui me porte. Et c'est ce que dit Épictète. Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle. Il dit ceci, il dit, la seule chose qui compte, c'est d'accomplir la volonté de Zeus. Il parle de Zeus parce qu'il est grec. Zeus, père des dieux et des hommes. Oui, c'est la seule chose qui compte et c'est extrêmement important. Oui, ça veut dire que dans tous les actes que je pose, je dois toujours me poser comme homme religieux cette question-là. Et c'est l'adoration qui me le fait vivre. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est la volonté de Dieu? Chercher en tout ce que je vis la volonté actuelle de Dieu sur moi. C'est l'adoration seule qui me fait vivre de ça. Et ça, je dis bien que c'est religieux, hein, c'est pas d'ordre chrétien. Le christianisme apportera l'adoration du Christ en nous. Et comme chrétiens, nous adorons avec le Christ. Mais il y a une adoration humaine, religieuse, hein, qui est vraiment humaine, une attitude humaine, donc, dont le philosophe doit parler. Et les païens en ont parlé. Hein. Épictète en parle. Oui, c'est pour ça que c'est très important de bien voir ça. C'est l'attitude humaine de l'homme qui découvre sa source, Dieu créateur, et qui, prenant conscience qu'il est une créature, lui remet tout ce qu'il est. Donc trouve une vérité pratique et libérée de toute dépendance autre que celle à l'égard de Dieu. Hein, donc, et liberté par rapport aux opinions, liberté par rapport au conditionnement dans lequel on se trouve, liberté par rapport à quantité de choses. Vous voyez, donc, hein, je remonte ainsi voyez, à cette source. Hein, et je dis bien que dans l'adoration, vous voyez, on est comme en présence de Dieu. On est comme enveloppé par lui. Vous voyez, Maître Eckhart emploie un terme très étonnant. Il dit qu'on est comme imbibé par la présence de Dieu, comme l'éponge qui est dans l'océan. L'adoration nous fait vivre dans cette présence actuelle de Dieu qui est plus présent à moi-même que moi-même. Et je n'en ai pas conscience psychologique. Mais grâce à un jugement de sagesse philosophique, je sais que Dieu, comme créateur, est plus radicalement présent à moi-même que moi-même. Et donc je vis de cette présence, dans l'adoration. L'adoration, c'est rejoindre cette présence. Donc vous voyez, je crois très important de bien voir ça, hein, que c'est un nouvel amour qui nous fait remonter vers cette source et vivre, j'allais dire, mais dans cette source. Vous savez, cette parole de Plotin, tellement extraordinaire, dans, je crois que c'est la cinquième Énéade, hein. Il dit ça. D'où vient donc que les âmes, fragments venus de Dieu, ont oublié leur Père et l'ignorent? Elles courent, dispersées, etc. Et c'est très étonnant. D'où vient donc que les âmes, fragments venus de Dieu, ont oublié leur Père et l'ignorent? Et l'adoration, c'est retrouver cette source, la rejoindre, en vivre, hein, et donc trouver voyez, cette fin plénière de notre vie, hein, de la vie humaine. Alors, demain, je reviendrai sur cette question et je voudrais vous montrer comment. L'adoration, c'est vraiment l'aspect du fondement de l'éthique religieuse. Elle exige, pour être pleinement elle-même, de s'ouvrir à la contemplation. Et ce que les Grecs hein, appelaient la théoria. Hein, théoria, hein, théos, hein, Dieu, orao, voir, hein, voir Dieu, le regard sur Dieu. L'adoration est fondamentale. Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, elle donne la stabilité. Oui, elle est l'analogue du premier amour, mais elle exige de s'ouvrir à la contemplation hein, qui va être la finalité plénière de l'homme religieux. Donc on verra demain pourquoi. Comment l'adoration exige de s'ouvrir à la contemplation, donc à la connaissance de Dieu autant qu'on le peut. Et dans cette lumière, on essaiera de voir tout ce que ça transforme dans notre vie morale, donc principalement hein, par rapport à l'expérience de l'amour d'amitié. Qu'est-ce que l'adoration contemplative change dans notre expérience de l'amour d'amitié? Qu'est-ce donc que l'amitié vécue de manière parfaitement humaine? Je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'éthique religieuse est une nécessité pour l'homme. Et donc, je ne peux donc vivre pleinement de l'amour d'amitié que grâce à l'éthique religieuse. Je crois que c'est très important, par exemple, du côté de la fidélité. La fidélité dans l'ordre de l'amitié, elle exige l'éthique religieuse. Parce que ça exige que grâce à l'adoration, on dépasse complètement le conditionnement du temps et du lieu. Que je suis lié à l'ami intérieurement, et non pas uniquement en fonction d'une circonstance. Alors ça, seule l'adoration le fait comprendre. Ça, je développerai un petit peu demain, puis on verra encore hein, quelles sont les vertus que l'éthique religieuse change dans l'amour d'amitié. Donc, notamment l'humilité,